on suit le prix du baril de pétrole. On le sent déjà à Québec et ailleurs. Je vous dirais qu'ici aux États-Unis, ça a monté d'un bon 75-80 cents le gallon. Ça a baissé le baril depuis quelques minutes, là, mais c'est sûr que ça joue du yo-yo pour tenter de comprendre ce qui s'en vient, parce que Donald Trump a dit « Ah, c'est du court terme, c'est du court terme. » Je suis pas certain de celle-là, là. Ça, c'est de la politique. Mais dans l'économie de l'énergie, quoi comprendre de tout ça? Yvan Clich qui est en ligne. Bonjour, comment ça va ce matin?
Oh bien, merci.
Là, il est à 102 $ US quand on s'est levé très tôt ce matin. Il était à 115. À quel genre de mouvement doit-on s'attendre au cours des prochaines semaines?
Ben, on doit s'attendre à beaucoup d'incertitudes, à la persistance de l'incertitude. En fait, on est en train de planter un décor pour que la situation continue à se dégrader au cours des prochaines semaines. Il faut tout simplement qu'on puisse s'assurer que les bateaux, les tankers, puissent recirculer de façon normale à partir du golfe Persique et dans le détroit d'Ormuz. La semaine dernière, c'est mine de rien à peu près 100 millions à la louche. C'est environ 100 millions de barils de pétrole qui n'ont pas atteint leur destinataire. C'est de l'inédit. Et puis, on ne voit rien ce matin quand on regarde la situation qui peut nous laisser faire croire que la situation va revenir à la normale. Deux choses. M. Trump parle d'assurance, mais on n'a pas encore vu vraiment le détail. Et déjà, les assureurs disent que les montants qui sont indiqués par Washington pour assurer les bateaux qui circulent dans les détroits d'Ormuz pour assurer si jamais sont l'objet d'attaques, c'est pas assez. Et puis, c'est quand même une centaine de bateaux qui circulent dans le détroit d'Ormuz. La flotte américaine n'est pas assez nombreuse pour pouvoir assurer leur protection. Et de toute façon, ces gens-là disent, écoutez, on est quand même en danger. Nous, avant, on opérait sans aucune inquiétude. Et puis là, ben, on circule, mais avec peut-être la possibilité qu'on reçoive un missile sur la tête. Alors tout ça, ça crée une incertitude qui fait que les bateaux ne circulent pas vraiment. Et tant qu'ils ne circuleront pas vraiment, la crise va tout simplement perdurer et les prix augmenter.
La pire semaine du Dow depuis avril. Les prix montent à Québec. Les prix montent au Québec, au Canada. On va défoncer le 2 $ le litre quand?
Ben, c'est encore une fois, c'est très difficile à prévoir, mais c'est sûr qu'on se dirige dans un scénario comme ça. On l'avait connu aussi en 2022 suite à l'invasion russe de l'Ukraine. C'est absolument pas exclu, au contraire, qu'on en atteigne le 2 $ le litre. Mais il y a en même temps aussi, ce qu'on doit indiquer, c'est qu'il y a une limite à tout ça. C'est que l'économie mondiale peut pas absorber des hausses aussi significatives de pétrole. Tout ce qui circule dans le monde, là, par air, par bateau et sur la voie terrestre, ben eux, à un moment donné, ça devient plus efficace là de transporter des marchandises avec des prix du pétrole ou des prix de l'essence, du diesel, du kérosène aussi élevés. Nous-mêmes, dans nos comportements quotidiens, on va se dire, est-ce qu'on va aller effectivement faire un road trip cet été avec des prix aussi élevés? On va soit abandonner le voyage ou le réduire. Donc tout ça, ça fait en sorte que la baisse de la demande va, due à un certain ralentissement économique, va quelque part faire en sorte aussi que le pétrole va être moins en demande, donc va peut-être rebaisser. Mais on n'en est pas encore dans cette situation-là. D'autre part, l'autre enjeu aussi, c'est que les pays ont des réserves, et là, on commence à regarder à peut-être les utiliser. Habituellement, les pays ont 3 mois de réserve, puis là, ils se disent, ouais, là, si ça continue comme ça, moi, c'est ma police d'assurance, mais là, je vais peut-être actionner cette police d'assurance, et encore là, c'est très rare qu'on fait ce genre de choses. Mais là, effectivement, peut-être qu'il va falloir mettre des barils sur le marché. L'autre facteur, c'est que les Américains, eux, depuis 1975, la crise pétrolière, ont des barils de pétrole par centaines de millions sur le marché, environ 425 millions, dans des caves au Texas et en Louisiane. Peut-être qu'aussi, ils vont être tentés d'en mettre quelques-uns pour atténuer l'effet de la hausse des prix de l'essence, d'autant qu'on se rapproche des élections de mi-mandat à la fin de l'année.
Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Parce qu'il y a de l'émotion là-dedans. Là, vous avez parlé de matériaux, de prix, c'est du tangible, mais les émotions, les gens vont freiner la consommation. Les gens vont se dire, OK, on n'ira pas en voyage, on prendra pas l'avion. Les gens, donc, il y a un danger peut-être de début de récession, on verra, mais de ralentissement à tout le moins, parce que la crainte et l'anxiété peuvent générer un comportement et endommager l'économie. Donc, c'est de l'émotion pure ce qu'on vit, là.
Ouais, c'est de l'émotion, mais en même temps, c'est aussi réel. Là, c'est une première là, que ce qu'on est en train de vivre, de bloquer des bateaux. Écoutez, avant, par exemple, sur le marché, on avait des inquiétudes sur ce qu'il va y avoir assez d'offres, La demande est trop élevée, donc les prix vont augmenter, mais on n'avait pas de doute sur la disponibilité des barils. Là, c'est très, très, très rare. On a des doutes sur la disponibilité physique du baril. Là. On ne l'aura pas physiquement dans nos mains. Donc ça, pour des pays, notamment en Asie, ça, c'est vraiment une situation extrêmement inédite. Puis moi, ben, ce qui m'inquiète, c'est que effectivement, on ne semble pas y avoir véritablement de fin, là, d'échéance mise au conflit. Le ministre de l'Énergie, lui, essaie de rassurer les marchés en disant, ah, vous savez, ça va être une question de quelques semaines. Monsieur Trump dit, on va souffrir un peu, mais on va éradiquer le régime iranien. Puis pendant ce temps-là, quand vous écoutez aussi d'autres experts, ils disent, écoutez, ce sera pas simple d'éradiquer le régime iranien. C'est pas le Venezuela, c'est pas la Libye. C'est un régime qui a beaucoup plus d'ancrage en Iran. Donc, s'ils veulent effectivement aller jusqu'au bout, ben ça peut prendre des mois. Puis là, c'est sûr que l'économie peut pas tenir des mois sans le pétrole et le gaz du détroit d'Ormuz. C'est impossible.
Est-ce qu'on doit surveiller les compagnies pétrolières également, qui seraient peut-être tentées de se prendre un petit peu plus de crémage, plus de profit au raffinage?
Ben, écoutez, ces compagnies-là, de toute façon, vont faire déjà beaucoup de profits. En 2022, ils ont eu des profits records. Cette année, probablement que si la situation perdure, ils vont faire un très bon cru. Donc, les compagnies pétrolières, autant que les sociétés d'État comme Saudi Aramco, non, mais elle, peut-être moins, elle va souffrir parce que justement, elle est située dans la région. Mais les pays qui sont hors de la région du Golfe Persique, autant des sociétés d'État de pays, de tant d'entreprises privées, ben oui, c'est sûr qu'ils vont faire des bonnes années avec la hausse des prix du pétrole. C'était pas envisagé. Puis l'Alberta, elle, avait prévu un budget à un prix X. Et puis là, ben, ce prix-là va être beaucoup plus élevé. Donc, ça va être des recettes énormes pour l'Alberta.
Sauf que c'est des recettes fiscales pour le Québec aussi, M. Clich. Oui, des recettes fiscales accrues pour
absolument.
Le Québec. Donc, la question est la suivante. Est-ce qu'on ne devrait pas, du côté du gouvernement, permettre un retrait momentané de la taxe sur le carbone, ce qu'on appelle la taxe sur le carbone, soulager un peu les conducteurs québécois?
Bon, oui, c'est certainement une mesure qui pourrait être envisagée si effectivement la situation perdure. Mais c'est là aussi qu'on voit que le Canada, le pétrole n'est pas dispersé. Comme c'est le cas aux États-Unis, tu as une trentaine d'États. Donc, quand il y a une augmentation des prix du pétrole et du gaz, à peu près tout le monde en profite, ce qui n'est pas le cas malheureusement au Canada. C'est surtout l'Alberta qui en profite et le reste de l'économie doit plutôt en souffrir. Alors, effectivement, peut-être qu'il y a des mesures comme diminution de taxes parce qu'on le sait, le pétrole, l'essence est beaucoup taxé. Donc, ça veut dire que les gouvernements ont des marges de manœuvre pour baisser ces taxes-là et s'assurer que l'essence reste à un prix un petit peu plus
abordable. Doivent-ils le faire? Hey, c'est la question sur le Figaro à la une là, ce matin. Le gouvernement français doit-il baisser les taxes sur les carburants pour compenser la hausse du prix du pétrole?
Oui, c'est absolument. La question je pense que ça en France. Oui, ça se pose et puis je pense que tout le monde dans la vraie vie se disent bon ben ils essaient de voir si on fait ça puis après ça deux semaines plus tard le conflit prend fin ben là on se dit bon on a fait tout ça puis c'était compliqué il y a une grosse logistique puis ça finalement ça a pas duré longtemps. Moi je pense que c'est là c'est que le gouvernement va essayer de voir est-ce que tout ça va probablement durer longtemps. Si c'est le cas ben oui il va falloir qu'on retire la taxe pour faire en sorte que l'économie ne ralentisse pas autant qu'elle pourrait ralentir. Alors, c'est certainement des questions que les ministres et leurs équipes, les ministres des Finances et leurs équipes ont comme agenda ce matin dans la plupart des pays en Europe et en Amérique du Nord.
Le diesel et le camionnage, c'est ça aussi qui risque de faire très mal?
Oui, absolument. J'entendais, moi, des commentaires aux États-Unis de certains camionneurs qui sont indépendants puis qui disaient, écoutez, moi, en haut de $3.50, le prix du diesel, le gallon, moi, je peux plus fonctionner. Là. Donc, ils sont des centaines de milliers comme ça aux États-Unis. Là. Donc, des gens qui sont des camionneurs indépendants puis qui doivent avoir un prix plus bas que ceux qu'on commence à avoir actuellement pour pouvoir continuer à gagner leur vie. Et plusieurs vont se dire, ben là, moi, je perds l'argent à faire circuler les marchandises d'un client à l'autre. Alors ça aussi, ça va commencer à peser lourd aux États-Unis. Alors certainement que déjà hier, je lisais que maintenant, il y a des sénateurs républicains qui commencent à pas la trouver drôle et à dire à l'administration Trump, là, quelles sont les mesures que vous comptez faire pour atténuer les prix du pétrole. Et j'entendais hier justement qu'au sommet à Washington, on est en train d'essayer de voir à des mesures pour limiter la hausse des prix de l'essence parce qu'on sait que ça va faire très mal sinon à l'économie et également politiquement à l'équipe républicaine.
Avez-vous déjà vu une telle situation?
Non, moi, ça fait 40 ans, dans la soixantaine, que j'étudie le marché pétrolier. C'était toujours le risque numéro un. Puis à un moment donné, à force de le lire, on s'en lasse. Et puis, ben, j'aurais jamais pensé qu'on aurait vu une situation comme on voit actuellement. Honnêtement, c'était le scénario, le pire scénario pour le marché pétrolier. C'est une paralysie du détroit d'Ormuz. Et honnêtement, je suis très étonné de voir que ce risque-là qu'on avait tellement envisagé, tellement craint, ben, est en train de se déployer sous nos yeux.
Y a-t-il matière à réflexion pour nos gouvernements, et je pense entre autres au gouvernement québécois, d'exploiter davantage nos ressources à la lumière des besoins mondiaux? N'y a-t-il pas lieu de dire « OK, on a passé une loi pour s'empêcher d'explorer et d'exploiter, on doit réviser ça et on doit se remettre à la page ». Dernière question, M. Clich.
Ben moi, ce que je vous dirais, c'est que là, il y a une question justement de se poser à savoir, là, est-ce qu'il n'est pas trop tard? Est-ce qu'on n'a pas manqué une grande fenêtre d'opportunité? Je pense que je voulais m'indiquer, je suis dans un colloque présentement à Ottawa. C'est une discussion que j'avais avec une personne. J'ai dit, c'est clair que si le Canada et le Québec avaient la possibilité d'exporter plus de pétrole et aussi de gaz naturel liquéfié à travers son territoire, on nous courrait partout, de partout dans le monde, on nous courrait après. Et ça serait évidemment un grand facteur de création de richesses. C'est clair que aussi ça nous aiderait beaucoup dans ce qu'on veut, notre volonté de diversification du marché américain. C'est sûr que moi, quelque part, je pense qu'il y a une grande opportunité qui a été manquée au Canada et au Québec parce qu'on est un pays où les projets d'infrastructure ces dernières années, c'est extrêmement compliqué à réaliser avec des conditions qui font en sorte que ça décourage beaucoup d'investisseurs. Et puis peut-être qu'un jour, on va se dire qu'effectivement, tous les Canadiens, les Québécois, qu'on a manqué une sacrée opportunité de devenir un joueur majeur sur la scène énergétique mondiale, comme l'est devenu les États-Unis. Nous, on avait aussi autant de potentiel et malheureusement, cette fenêtre-là d'opportunité, on n'en a pas profité. Ça reste, je pense, quand même un certain regret qui pourrait être entretenu là, chez plusieurs au Canada et au Québec.
Monsieur Clich, merci beaucoup.
Merci, au plaisir.
Yvan Clich.